Tu sur HTP Radio. C'est l'été, viens de poser HTP.
Sors dehors, tu nous entendras tous crier.
Bonjour tout le quartier.
Oh HTP.
Viens quoi.
HTP quartier.
Vas-y, qu'est-ce que tu fous.
Vous faites quoi là. Qu'est-ce qui se passe à HTP.
On parle de quoi là.
On parle d'HTP. Bonjour Lassana.
Oui, bonjour lui.
On est là pour un sixième épisode de la Tribune du Jumeau.
Oui.
On va parler droit à la paresse, là. Tu es prêt pour être paresseux avec moi?
Droit à la paresse. Il y a deux notions, il y a droit et paresse. Est-ce qu'on a droit de paresser? Est-ce qu'on a droit... Qu'est-ce que la paresse?
Qu'est-ce que c'est que la paresse? Bonne question. Ouvrons les guillemets.
Je crois que la paresse, c'est cette attitude de ne rien faire, de flâner, d'avoir pas d'occupation.
Pas de but productif.
Pas de but productif, quoi.
Est-ce que c'est pas une manière d'être artiste, un peu?
Non, un artiste, il produit.
Il produit, un artiste.
Ouais, un artiste, il produit, je crois.
Mais dans le sens de pas l'artiste qui va sculpter son bloc de marbre, qui est une partie du travail artistique, mais plutôt l'artiste qui arrive plus à remplir la page blanche, qui a un syndrome de page blanche. Et alors, pour, bizarrement, plutôt que de se plonger dans des bouquins et tout ça, de travailler, de chercher des solutions, pour s'inspirer, et ben, il va rien faire, et là, une idée va l'illuminer. Est-ce que ça, c'est pas un peu la paresse artistique?
La paresse artistique. Non, je ne vois pas.
T'es pas... Ouais, tu
non,
t'accroches
pas.
Pas.
Je ne vois pas. Moi, je pense que dès l'instant où il se met à déjà tracer des choses sur sa feuille blanche, il travaille. Bon, à un moment, pour lui arriver à ne rien faire, et juste, pendant un moment où il ne fait rien, où il n'est pas actif, où il ne produit pas, mais il réfléchit. Est-ce que le fait de réfléchir n'est pas c'est du travail aussi? Parce qu'on fournit de l'énergie. Donc, c'est la réflexion, c'est la recherche perpétuelle de solutions. Et c'est un peu rébarbatif. Hein,
ouais.
On peut penser à tout ce qui est bien, à tout ce qui est mauvais. On saute du coq à l'âne. C'est ça, réfléchir, penser.
Alors que la paresse, ce serait peut-être méditer et vraiment s'extirper de toute pensée qui aille quelque part.
Moi je pense que la paresse, c'est l'état de l'individu au moment où il ne fait rien du tout.
Un rapport à la...
Il ne veut pas... Non, c'est l'état qui caractérise un individu qui, non pas parce qu'il n'a pas de travail, mais qui ne veut pas travailler.
Une volonté politique.
Qui n'a pas la volonté de produire.
Qu'est-ce qu'il a la volonté de faire? Est-ce qu'il a une volonté, le paresseux ou la paresseuse?
Le paresseux, c'est quelqu'un qui manque de volonté, qui ne veut rien faire, qui ne s'exerce à rien, qui, comment dire, un dandy.
Mais si c'est un droit, et on sait que les droits s'obtiennent par la force, par l'effort, si c'est un droit à la paresse, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a quand même un peu de volonté, le paresseux ou la paresseuse?
Non, juste là, le droit à la paresse, c'est le fait que nous sommes dans une société qui travaille, qui travaille, qui travaille incessamment. Bien, je pose la question, mais pourquoi on ne refuse pas de travailler? Donc, pourquoi pas le droit à la paresse? C'est dans le sens que je comprends la notion de droit. C'est dans ce contexte que je comprends la notion de droit à la paresse. C'est-à-dire... Pourquoi nous ne nous arrêtons pas de travailler? De droit à la paresse.
Et alors, est-ce que tu aurais une piste de réponse? Pourquoi on ne s'arrête jamais de travailler?
Oui, moi je pense que... pourquoi on ne s'arrête jamais de travailler? Et moi je pense qu'on est dans les sociétés contemporaines où la machine a tendance à remplacer l'homme. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que l'homme ne doit pas travailler parce que la machine ne peut pas remplir toutes les fonctions que l'homme peut remplir. Alors dans ce cas, on peut amoindrir l'effort de l'homme par rapport au travail. On a parlé une fois, je crois, des 35 heures. Non, pas des 35 heures. Oui, des 35 heures, la réduction du temps de travail qui avait été initiée à une certaine époque ici. Donc, ça, c'est des mesures qui favorisent... c'est des mesures qui favorisent le plein emploi pour tout le monde et aussi qui allègent le poids du travail pour tout le monde aussi. De sorte qu'on puisse s'intéresser à d'autres activités comme culturelles, artistiques, voilà, ou de congés ou de voyages, quoi.
C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, on se rend compte qu'en fait, quand on essaye de s'extirper un peu de ce travail qui est omniprésent et qu'on nous rabâche tout le temps... au lieu de dire je vais être paresseux à 100% et vraiment ne rien faire, on se rend compte qu'il y a très vite d'autres occupations qui avaient l'air secondaires jusque-là qui redeviennent principales.
Tout à fait.
Et en fait, le droit à la paresse, c'est pas tellement le droit à dormir des siestes toute la journée, c'est plutôt pouvoir s'engager dans d'autres choses.
Dans d'autres choses, tout à fait.
Et ça, c'est intéressant.
Et même le fait qu'on dise que. Qu'on prenne des congés, qu'on se repose, tout ça. C'est le fait, c'est ça. Ça veut dire changer d'activité. Hein. Le repos, c'est ça. Hein. Le repos, cela ne veut pas dire flâner, ne rien faire. C'est changer d'activité pour ne pas s'ennuyer sur une seule tâche.
J'ai l'impression qu'en trame de fond, il y a aussi cette question de la division du travail, qui est pour moi une question fondamentale de qui fait quoi dans la société? Pourquoi ce sont certains groupes sociaux qui vont toujours être assignés à certaines tâches, comme par exemple des personnes de la haute bourgeoisie ou des personnes avec beaucoup d'argent qui vont être souvent au poste de pouvoir, etc. Ou au contraire des personnes racisées ou de immigrés qui sont souvent dans les tâches ménagères et tout ça.
Tout à fait.
Et comment ça se fait que les revenus associés soient super fluctuants? J'ai l'impression que derrière...
C'est une certaine organisation de la société, une organisation inégalitaire qui fait que certaines personnes sont plus payées que d'autres. Donc pour trouver une solution à ça, il va falloir refonder les structures... de la société même, quoi.
Ça pose grandes questions.
Ça pose une question de l'engagement pour plus d'égalité, plus de démocratie, plus de partage, plus de solidarité.
Et alors, comment il se vit, le droit à la paresse? S'il se vit, si tu y as goûté à ce fruit délicieux, comment il se goûte le fruit de la paresse, le fruit du droit de la paresse à Haute-Pierre? Comment il s'organise? Qu'est-ce qu'on y fait à Haute-Pierre de la bonne manière paresseuse?
De la bonne manière paresseuse, c'est de trouver des solutions à ce que tout le monde puisse s'occuper des choses qui intéressent la cité, du bien commun, du lien social. Je crois que c'est ça, c'est ce côté-ci qu'il faut se penser, quoi.
Et concrètement, les lieux, vraiment pour toi, du bien commun, du bon gouvernement global et effectif par les citoyens et les citoyennes, ce serait quoi concrètement ces lieux-là, Haute-Pierre, pour toi vraiment, subjectivement?
Moi, je pense que il faut que d'abord qu'on fasse intéresser les habitants et les habitantes aux questions qui sont communes à leur avenir commun dans le quartier.
Aller au supermarché, ça nous coûte très cher et moi, je trouve que c'est très important de faire le lien entre des expériences individuelles quotidiennes, par exemple. Je vais aller faire mes courses en fin de semaine à Super U, ça va me coûter extrêmement cher. Il faut faire le lien entre cette expérience-là et le fait que derrière, il y a des entreprises et il y a des familles et il y a des gens qui s'enrichissent de cette situation-là. Et il faut les nommer, parce que sinon, ça nous semble trop abstrait. Si on dit les marchés financiers, par exemple, on n'a rien dit du tout. On se dit, bon, c'est des gens. On dit même pas que c'est des gens, on dit que ce sont des marchés. Mais les marchés financiers, ce sont des gens. Ce sont des fonds d'investissement, et derrière, ce sont des riches familles. Voilà, ce sont des banques avec, dirigées par des vraies personnes. Et ça, c'est important de le dire, parce que sinon, en fait, on ne saura pas quoi faire.
Bon, c'est vrai que chacun sait qu'il y a des... Par exemple, il y a des problèmes, mais personne ne se mobilise autour pour trouver des solutions. Mais je crois que c'est ceux qui nous administrent qui doivent faire en sorte que on puisse mobiliser encore plus les personnes à s'intéresser à consolider le bien commun et le lien social. Mais comment, par exemple, moi, des fois, je me dis que dans certains taux, par exemple, tu ne payes pas d'impôts. Pourquoi on ne dirait pas que il faut que tes activités sociales dans la cité qu'on donne des points aux activités des personnes dans la cité. Toutes les personnes qui participent à une activité sociale, une utilité sociale, qu'on puisse noter, qu'on puisse les annoter, donner des notes. Et que ces notes, en fonction d'un certain nombre de notes, que tu ne payes plus d'impôts. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent s'intéresser aux questions sociales, aux questions à leur vie collective, quoi. Mais pas que tout le monde se désintéresse. C'est vrai qu'il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail. Bon, on dira aussi que bon, cette tâche est dévolue à l'administration. L'administration ne peut pas tout faire. Et nous, les habitants, on doit être les relais pour faire remonter nos problèmes à l'administration. Mais nous-mêmes, il y a des difficultés à se rencontrer. Il faut qu'on se rencontre. Mais pour qu'on se rencontre, si on se motive, nous-mêmes, qu'on fasse que les administrateurs fassent en sorte que ils nous fassent intéresser à nous mobiliser pour le bien commun.
Est-ce que paradoxalement, il n'y a pas un désir chez nos gouvernants et nos gouvernantes de fracturer les tentatives d'autogouvernement parce que justement une peur pour eux et elles qui nous gouvernent de se sentir plus indispensable du jour au lendemain?
Tout à fait, c'est raisonnable, c'est tout à fait ça. Parce que si nous voyons qu'ils ne font pas en sorte qu'on soit intéressé à nous occuper, à nous éveiller à la politique, c'est justement pour ne pas qu'on puisse trouver des solutions à ces intérêts qu'ils gardent jalousement, quoi. C'est justement ça. Sinon, y a des solutions pour intéresser les gens à la vie de la cité. Maintenant, on pourrait faire que les gens végètent, qu'ils travaillent et qu'ils rentrent chez eux, et puis c'est tout, quoi.
Des sortes de légumes...
Voilà, tout à fait. Mettre au boulot de dos, quoi.
C'est clair. On revient justement à l'origine de cette discussion autour du droit à la paresse, avec à l'origine de tout ça, le livre « Le droit à la paresse » de Paul Lafargue, paru en 1880. Et sur l'article Wikipédia qui parle de l'ouvrage, on peut lire « Ce sont les prêtres, les économistes et les moralistes qui sont à l'origine de cet amour absurde du travail ». Qu'est-ce que ça suscite chez toi, ces quelques lignes ?
Je crois que les moralistes, les théologiens, il a dit.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai que tu as cet amour du travail, mais ce n'est pas que ça seulement. Je pense que le travail est une nécessité. Pour chaque homme, pour survivre, il faut travailler.
Donc il faut une alternance entre ce droit à la paresse et une forme de travail ?
Oui, tout à fait. Il faut une certaine alternance, oui, tout à fait. Tantôt, avoir droit à la paresse, ça n'en rien faire. Tantôt, il faut travailler. Ah, on ne peut pas vivre sans travailler.
On ne peut pas vivre sans travailler.
Donc, le droit à la paresse, si on dit le droit à la paresse pour tout le monde, alors, c'est là le problème. C'est encore un problème.
Ça ouvre encore une fois les nombreuses portes de la définition de toutes les notions qu'on évoque à chaque fois, comme le travail, la paresse, le fait de gouverner la cité,
ouais.
Le fait d'habiter.
Ouais.
Euh, je propose qu'on lise un petit extrait de cet article qui est très, très intéressant. C'est un texte qui date de 1880, donc qui est assez ancien et qui parle aussi des conditions de vie et de travail des ouvriers à cette époque, ouais. Qui étaient vachement dures. Il n'y avait pas encore de sous-traitance dans des continents autres que l'Europe. Alors, pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique et libre penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les droits de la paresse mille et mille fois plus sacrés que les physiques droits de l'homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise. Qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Quelle réaction ça a ?
Ouais, c'est la réaction que j'ai eue par rapport à ce que tu viens de lire. Moi, je pense qu'on peut avoir le week-end de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, réduction totale du temps de travail, mais on ne le fera jamais, parce que ça bouscule les intérêts de ceux qui nous gouvernent.
Il y a un intérêt à produire de la richesse et à s'enrichir sur le dos des travailleurs.
Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est des possibilités que l'industrialisation nous donne. Mais on préfère faire bosser tout le temps, tout le monde durement, sans pour autant chercher à nous donner les moyens de nous cultiver.
Ce que tu dis, parce que on retombe sur les paroles de ce fameux Nicolas Framont qui parle de parasites pour désigner les bourgeois et qui dit que paradoxalement ce sont les bourgeois qui se cachent derrière leurs pratiques qui sont pleines de bon goût, de ce côté de mécène aussi pour les arts et pour la créativité. Mais derrière leur beau discours, il y a aussi l'idée de figer un ordre social qui est en leur faveur en permanence, ouais. Où ils sont en fait en train d'exploiter complètement des travailleurs sur leur force de travail.
La classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Donc, vraiment, si on analyse les choses telles qu'elles sont, c'est un parasitisme. Et si je parle d'assistanat également, c'est parce qu'effectivement, ça a été un stigmate qui a été plutôt réservé aux plus pauvres, aux étrangers qui profiteraient d'allocations mirifiques, etc., ce qui n'est évidemment pas le cas et surtout qui est toujours très conditionné. Bah, les plus riches, eux, la classe bourgeoise, bénéficient en France particulièrement d'aides publiques, d'une éducation pour leurs enfants, qui nous coûte à tous très très cher, auquel on contribue tous, et qui est sans contrepartie. Et on arrive à un stade de l'histoire du capitalisme en France où les grandes fortunes se nourrissent de notre travail, mais aussi de nos impôts. Et donc là, on est vraiment sur un stade d'accumulation particulier qui est complètement presque anti-libéral, on pourrait dire, hein, parce que souvent on dit le capitalisme, c'est l'économie du libre marché, etc. Bah, en France, comme dans en fait beaucoup de pays occidentaux, non, les riches, ils sont très aidés par la puissance publique pour être encore plus riches. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer pour retourner ce stigmate-là Et c'est un livre qui a une fin politique, c'est-à-dire qui est de dire « regardez ceux d'en haut, ne regardez plus et ne stigmatisez plus ceux d'en bas, parce qu'il faut faire corps contre eux. C'est eux qui sont en train de menacer notre société et notre écosystème. » Depuis les débuts du capitalisme, l'État est instrumentalisé par la bourgeoisie pour qu'elle parvienne à ses fins. Mais c'est vrai que dans notre histoire particulièrement sociale en France, ça n'a pas toujours été le cas. Par moments, l'État a été une puissance qui a contrebalancé les intérêts de la bourgeoisie ou les a limités, les a régulés. Mais ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, la symbiose est totale. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter d'avoir cette idée selon laquelle on aurait d'un côté le public qui incarnerait l'intérêt général, la vertu ou quoi que ce soit, et de l'autre, le secteur privé qui chercherait à, via des lobbyistes, avec tout un tas de procédés dans l'ombre, chercherait à manipuler les puissants. Ce n'est plus le cas. Sous le macronisme, la symbiose est totale. Nos ministres sont d'ex-cadres supérieurs du capitalisme privé. Ils sont ministres et puis ensuite, ils repasseront dans le capitalisme privé. Macron, quand il ne sera plus président, je suis sûr qu'il sera au conseil d'administration de tas de grosses boîtes.
Le pantouflage est quasiment érigé en vertu. Quoi.
Mais c'est voilà. Donc, c'est même dur de parler de pantouflage puisque de toute façon, c'est une seule et même classe qui s'est partagé les rôles. Et même les entreprises publiques de nos jours en France fonctionnent comme des entreprises privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus un contre-pouvoir au privé, elles ont été mises à fonctionner de la même façon, et d'ailleurs, les travailleurs des entreprises publiques se rendent bien compte, ils se sentent exploités, et pourtant, ils appartiennent au public. Mais parce qu'en fait, le mécanisme d'exploitation est le même. Et la classe, c'est pour ça que quand je parle de la classe bourgeoise, avec frustration, on a vraiment essayé de redonner du sens à ces mots, de réactualiser ces concepts de la lutte des classes. La classe bourgeoise, souvent, on s'imagine un peu le gros propriétaire privé versus, du coup, l'État. Mais en fait, la classe bourgeoise, en France, elle dirige aussi l'État. La haute fonction publique est occupée par des gens qui sont les frères, les pères ou les cousins de ceux qui dirigent les grandes entreprises du pays. Et en fait, on est dans une sorte d'économie mixte où les pouvoirs sont répartis. Et le tout est de permettre le plus d'accumulation possible. Et c'est important de le dire parce que sinon, on se trompe, quoi. On attend des choses de l'État qu'on ne peut plus attendre parce qu'en fait, il a été annexé. Alors, comment on fait par rapport à ça? La bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. D'un point de vue individuel, ça leur permet à eux de se sentir méritants, travailleurs, etc. Et tous les grands patrons de ce pays, tous les milliardaires, vous diront qu'ils ont travaillé dur pour ça. Il n'y a pas longtemps, il y avait Marc Ladrette de La Charrière, donc qui est le président d'un immense fonds d'investissement, qui est un héritier, qui a grandi dans un château, etc., qui vient d'une vieille famille noble, qui expliquait sans rire hein, sur France 2 que il avait été pion, donc il s'était construit tout seul, il avait été pion à 19 ans, et que tous les pions de 19 ans devraient pouvoir espérer être milliardaires. C'est très grave de dire ça, parce que les faits ne sont pas du tout ça. Si on prend effectivement, moi je me base beaucoup sur mes matériaux, en fait c'est la presse bourgeoise, hein, j'ai beaucoup de Challenge par exemple, qui chaque année fait le classement des 500 plus riches de France, les 500 plus riches familles, quand on regarde les 100 premiers, il n'y a pas de hasard. Il y en a 60 qui ont hérité directement de l'entreprise qui les rend riches, et les 40 autres, c'était des héritiers de fortune de toute façon. Donc, la société, elle est fermée. Il peut y avoir des exceptions, et quand il y a des exceptions, on n'entend parler que de ça, mais globalement, les classes se reproduisent dans le temps, et même s'il y a des variations, même si par exemple, sur nos générations, on fait plus d'études que nos parents, parce qu'une partie de l'économie capitaliste s'est tertiarisée, globalement, l'équilibre des forces reste le même. Donc, cette société, pardon, elle est plus fermée qu'elle en a l'air, et c'est très important, du coup, pourquoi désigner l'adversaire ? Bah, pour montrer comment ils font pour dominer. Et comment ils font pour dominer, c'est pas que de la sociologie abstraite, ce sont des gens qui, dans leur parcours, on peut identifier des moments où c'est pas leur travail qui a payé, mais c'est leur position de classe, c'est leur relation politique, c'est leur exploitation du travail d'autrui. Ce sont des gens qui profitent de nos faiblesses, voilà, qui ont profité, par exemple, de la délocalisation de toute une partie de nos industries, qui ont profité du Covid. Les milliardaires français se sont beaucoup enrichis pendant la reprise économique post-Covid. Ils profitent de l'inflation. Il faut sortir de, faut arrêter d'interpeller nos gouvernants en pensant qu'un jour ils vont nous écouter. Et c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on fait. Enfin voilà, si vous avez participé à un mouvement social, c'est souvent ce qu'on fait. On dit mais pourquoi ils ne nous entendent pas ?
Le dialogue.
Voilà, on cherche le dialogue parce que aussi c'est ça qui nous impose en face.
Bien sûr, ce sont des codes routiniers, ritualisés, voilà. Que l'on reproduit.
Et on nous y a tous encouragés. Enfin, l'éducation civique républicaine, c'est bien de croire dans le dialogue et le débat. Voilà, même quand il n'a plus lieu. et on continue d'y croire. Et moi, j'ai travaillé comme donc sociologue du travail auprès des CSE, donc des représentants du personnel. Et du coup, mon rôle, je continue de faire ce travail de façon beaucoup plus intermittente maintenant en freelance. Donc, c'est d'aider les représentants du personnel à contre-expertiser les projets des directions, ça peut être des plans de licenciement, des réorganisations, à l'installation d'un nouveau logiciel, que sais-je, pour les aider du coup à mieux dialoguer, ou plutôt à mieux négocier. Et en fait, moi je les accompagne tout le long, et je vois bien comment les directions d'entreprise ont beau jeu de toujours souhaiter le dialogue, et donc c'est des réunions interminables dont il ne sort rien, parce qu'à la fin, elles font bien ce qu'elles veulent. Et je me dis, toute cette énergie passée en réunion à essayer un dialogue qui est impossible, c'est de l'énergie qui n'est pas mise pour essayer d'instaurer un rapport de force.
Est-ce que la paresse, ce n'est pas aussi une manière de s'extirper de cet ordre dans lequel on n'a pas la place d'être autre que exploité par quelqu'un d'autre ?
C'est tout à fait. C'est le droit à la paresse, effectivement, est un moyen qu'on peut brandir pour s'extirper d'être un forçat du travail, quoi.
On revient à cette histoire que tu me racontais dans le précédent épisode, Lassana, de ta famille. C'était ton père ou ton oncle, je ne sais plus, mais qui était cordonnier, forçat quasiment, pour l'armée coloniale française.
Tout à fait, qui avait fait 100 paires de bottes pour l'armée coloniale au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Face à eux, est-ce qu'on ne prendrait pas un droit à la paresse étendu et qu'on ne pourrait jamais révoquer ?
Ah ouais, un droit à la paresse, vous dites non, je ne travaille pas gratuitement, oui.
Tout à fait.
C'est ça.
Sur ça, on pourrait se resservir du café et continuer à, discuter.
HTP Radio, c'est fini. Tu peux nous retrouver sur htpradio.org. Allez, ciao HTP, à plus dans le bus.
Ciao HTP.